David contre Goliath. Un passage historique raconté dans le livre de Samuel. Une histoire connue par beaucoup de nos contemporains, même s'ils ne sont pas familiarisés avec la lecture de la parole de Dieu. De mémoire, l'histoire de David contre Goliath, c'est le petit contre le grand, le jeune homme contre le guerrier aguerri et vieillissant, l'intelligence et la subtilité contre la force aveugle, l'agilité et la précision contre la force brutale, la foi naïve et sincère contre le paganisme, la victoire avec l'aide du Dieu vivant contre les païens idolâtres. Un encouragement pour affronter nos peurs et surmonter nos angoisses en augmentant notre foi en Dieu. C'est mieux de relire le texte dans 1 Samuel 17, versets 1 à 54. Je le lis dans une version qui s'appelle « Parole de vie ». Et donc, on est dans 1 Samuel 17, versets 1 à 54. Les Philistins réunissent leur armée pour aller faire la guerre. Ils se rassemblent dans la ville de Soco, en Juda, et ils installent leur camp à Éphès-Damine, entre Soco et Azeka. Saül et l'armée d'Israël se rassemblent et s'installent dans la vallée du Térébinthe. Puis, ils se mettent en ordre de combat contre les Philistins. Les Philistins sont sur une colline et les Israélites sur une autre, une vallée les sépare. Un soldat philistin quitte le rang et il s'avance entre les deux armées. Il cherche quelqu'un qui peut se battre contre lui. Ce soldat est de la ville de Gath, il s'appelle Goliath. Il mesure à peu près 3 mètres. Sur sa tête, il a mis un casque de bronze. Il a des plaques de bronze autour des jambes. Il porte une cuirasse faite en écailles de bronze. Cette cuirasse pèse 60 kilos. Sur sa poitrine, en travers, il porte une arme de bronze. Le bois de sa lance est gros comme la barre d'un métier à tisser. La pointe de fer au bout de la lance pèse plus de 7 kilos. Celui qui porte son bouclier marche devant lui. Goliath s'arrête et il crie aux soldats d'Israël. Vous vous mettez en ordre de combat, pourquoi donc ? Je suis un Philistin et vous, vous êtes les esclaves de Saül. Choisissez parmi vous un homme pour lutter contre moi. S'il arrive à me battre et s'il me tue, les Philistins deviendront vos esclaves. Mais si c'est moi qui arrive à le battre et si je le tue, c'est vous qui deviendrez nos esclaves. Et il ajoute encore, « Aujourd'hui, je provoque l'armée d'Israël, envoyez-moi un homme et nous allons lutter l'un contre l'autre. » Quand Saül et toute l'armée d'Israël entendent ce que Goliath dit, ils sont paralysés par la peur. David est fils de Jessé du clan d'Éphrata. Il habite à Bethléem dans le pays de Juda. Jessé, ou Isaïe, a 8 fils et au temps de Saül, il est très âgé. Ses 3 fils aînés, Eliab, Abinadab et Shammah, sont partis faire la guerre avec Saül. David est le plus jeune. Il a l'habitude d'aller servir Saül quelque temps, puis de revenir garder les moutons de son père à Bethléem. Pendant 40 jours, Goliath, le Philistin, se présente matin et soir devant l'armée d'Israël. Un jour, Jessé dit à David, « Prends ce sac de grains grillés et ces 10 pains, va vite au camp militaire, tu les donneras à tes frères. Prends aussi ces 10 fromages et donne-les à leur commandant. Va voir si tes frères sont en bonne santé et rapporte-moi quelque chose qui me montrera que tout va bien là-bas. Tu vas les trouver avec Saül et toute l'armée d'Israël. Ils sont dans la vallée du Térébinthe en train de faire la guerre aux Philistins. » Le jour suivant, David se lève tôt le matin. Il laisse ses moutons à un gardien. Il prend les cadeaux et il se met en route comme son père Jessé l'a dit. Il arrive au camp d'Israël. À ce moment-là, l'armée d'Israël se prépare pour le combat et les soldats poussent le cri de guerre. Les Israélites et les Philistins se mettent en ordre de combat. David laisse ses cadeaux près du gardien des bagages et il court vers les soldats. Quand il trouve ses frères, il leur demande s'ils sont en bonne santé. Au moment où il parle avec eux, le Philistin de Gath qui s'appelle Goliath s'avance devant son armée. Et comme d'habitude, il se met à provoquer les Israélites. David entend tout ce qu'il dit. Quand les Israélites voient Goliath, ils ont tous très peur et ils reculent. Chacun dit, « Voyez-vous cet homme-là, il vient nous provoquer, c'est pourquoi il s'avance vers nous. Si quelqu'un réussit à le tuer, le roi lui donnera beaucoup de richesses. Il lui donnera sa fille en mariage et la famille de son père ne paiera plus d'impôts en Israël. David demande aux soldats qui sont près de lui, « Qui est ce Philistin non circoncis qui se permet d'insulter l'armée du Dieu vivant ? Qu'est-ce qu'on va donner à celui qui tuera ce Philistin pour effacer l'insulte lancée contre Israël ?» Les soldats redisent à David tout ce que le roi donnera à cet homme-là. Mais Eliab, son frère aîné, entend ce que David demande aux soldats. Alors il se fâche et il dit à David, « Pourquoi est-ce que tu es venu ici ? À qui est-ce que tu as laissé ton petit troupeau dans le désert ? Je te connais bien, petit orgueilleux, ton cœur est mauvais. C'est pour voir le combat que tu es venu. » David lui répond, « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? J'ai simplement posé une question. » David tourne le dos à son frère et pose la même question à un autre soldat. Il répète cette question à d'autres soldats. Chacun lui donne la même réponse. Tout le monde entend parler des questions posées par David. Le roi Saül lui-même apprend cela. Il fait tout de suite venir David. Celui-ci dit au roi, « Personne ne doit se décourager à cause de ce Philistin. Moi, j'irai me battre contre lui. » Saül lui répond, « Non, tu ne peux pas aller te battre contre lui. Toi, tu n'es qu'un jeune garçon, et lui, c'est un soldat depuis sa jeunesse. » Alors David dit, « Quand je garde les moutons de mon père, si un lion ou un autre animal sauvage vient et prend un mouton du troupeau, je cours derrière lui, je le frappe et j'arrache le mouton de sa gueule. Et s'il vient contre moi, je le saisis à la gorge et je le tue. Voilà comment je fais pour tuer les lions et les autres animaux sauvages. Je vais faire la même chose à ce Philistin non circoncis, qui a insulté l'armée du Dieu vivant. Le Seigneur me protège des griffes du lion et des autres animaux sauvages. Il va aussi me protéger des attaques de ce Philistin. » Alors Saül dit à David, « Pars donc et que le Seigneur soit avec toi. » Saül donne à David son équipement de guerre. Il lui met son casque de bronze sur la tête. Il l'habille de sa cuirasse. David met encore l'épée de Saül par-dessus la cuirasse et il essaie d'avancer, mais il n'y arrive pas. En effet, il n'est pas habitué à cet équipement. Alors il dit à Saül, « Avec tout cela, je ne peux pas marcher, je n'ai pas l'habitude. » Et il enlève l'équipement de Saül. David prend son bâton et il va choisir 5 pierres bien lisses au bord du torrent. Il les met dans son sac de berger, il prend sa fronde dans sa main et s'avance vers Goliath. Goliath s'approche petit à petit de David. L'homme qui porte son bouclier marche devant lui. Goliath regarde David. Quand il le voit, il le juge comme un petit rien du tout. En effet, David est encore jeune. Il a le teint clair et un beau visage. Alors Goliath crie à David, « Tu viens contre moi avec un bâton, tu me prends donc pour un chien ?» Et il lance à David des malédictions de la part des dieux philistins. Il crie encore, « Viens ici, je vais donner ton corps à manger aux oiseaux et aux animaux sauvages. » David lui dit, « Toi, tu viens contre moi avec une épée, une lance et une autre arme. Et moi, je viens contre toi au nom du Seigneur de l'univers, le Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui même, le Seigneur va te livrer à moi. Je vais te tuer et te couper la tête. » Aujourd'hui même, je vais donner les corps des soldats philistins aux oiseaux et aux animaux sauvages qui les mangeront. Alors, tout le monde apprendra que les Israélites ont un Dieu, et tous les Israélites rassemblés ici le sauront. Le Seigneur n'a pas besoin d'épée ni de lance pour donner la victoire. Il est le maître de cette guerre et il va vous livrer en notre pouvoir. Goliath se remet à marcher vers David. Alors David court très vite vers Goliath sur le terrain du combat. Il prend une pierre dans son sac, il lance sa fronde et la pierre va frapper le front de Goliath. Elle s'enfonce dans son front et Goliath tombe, le visage contre le sol. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David a été plus fort que Goliath le Philistin. Il l'a fait tomber, il l'a tué sans épée. David court et s'arrête près de Goliath. Il tire l'épée de Goliath de son étui et lui coupe la tête. Alors, quand les Philistins voient que leur champion est mort, ils se mettent à fuir. Les soldats d'Israël et de Juda poussent leurs cris de guerre et ils poursuivent les Philistins jusqu'à l'entrée de Gath et d'Écron. Les corps des Philistins couvrent la route de Shaaraïm jusqu'à Gath et Écron. Puis les Israélites arrêtent de poursuivre les Philistins et ils reviennent piller leur camp. David prend la tête de Goliath et il la porte à Jérusalem. Il met les armes du Philistin dans sa tente. Ce texte que nous venons de lire n'est pas un article de presse contemporain. C'est l'histoire d'un conflit qui date de plus de 3000 ans. C'est la guerre. La lutte pour occuper un territoire et sa conséquence, la mise en esclavage du peuple vaincu. Deux armées se défient et s'affrontent. Les soldats, entraînés, obéissent aux ordres de la hiérarchie. On ne leur demande pas de prendre des initiatives. Ils sont soldats. L'agresseur dans cette bataille, ce sont les Philistins. Chapitre 17, verset 1. C'est eux qui sont venus envahir le pays de Juda au nord de Bethléem. L'armée de Saül doit se mettre en ordre de bataille et vient s'installer sur la colline en face. La vallée sera le champ de bataille. Pour une fois, les Philistins sont les plus forts sur le papier, en nombre, en armement, en stratégie, en expérience militaire. Néanmoins, ils proposent un combat singulier, un affrontement entre deux guerriers, et qui désignera le vainqueur de la bataille en économisant la vie de ses propres soldats. Comme quoi, à un certain moment du raisonnement, les vies humaines peuvent compter et la vie des hommes peut être respectée. Goliath sort du rang. Il est impressionnant, il parle fort, il est sûr de sa force brutale, son équipement est imposant. Il défie les soldats de Saül. En face, aucun volontaire pour affronter ce géant. Même Saül, chef de guerre réputé, actuel premier roi d'Israël, ne trouve pas de solution. Tous les jours, matin et soir, la même provocation, et pour l'instant pas d'affrontement frontal. Mais tout le monde sent que la bataille est imminente. Isaïe, ou Jessé, dans ce suivant la traduction, un ancien de Bethléem, père de 8 fils à ses 3 aînés engagés sur le champ de bataille. Que deviennent-ils ? Pas de journal télévisé, pas de reporter pour la radio, pas de téléphone. Il faut envoyer un messager. Son plus jeune fils, David, est désigné pour visiter et approvisionner les combattants afin de prendre des nouvelles de leur santé et de l'avancée de cette guerre. David, le plus jeune de la famille, quelque temps auparavant, il a reçu une onction d'huile de la part de Samuel qui le désigne pour devenir le roi d'Israël en successeur de Saül. On peut relire ça au chapitre 16, les versets 1 et les versets 10 à 13. Donc 1 Samuel, chapitre 16, verset 1. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül ? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai vers Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Et donc, au verset 10, Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont-ce là tous tes fils ? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher, or il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, loin-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour, et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Donc David avait déjà fait un petit bout de chemin. David n'est pas le jeune homme inexpérimenté, tout juste bon à garder le troupeau familial. Il a été introduit dans le cercle rapproché du roi Saül. Au chapitre 16, dans les versets 14 à 23, on peut lire que l'Esprit de l'Éternel se retira de Saül qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent, « Voici un mauvais esprit venant de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe, et quand le mauvais esprit venant de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. » Saül répondit à ses serviteurs, « Trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. » L'un des serviteurs prit la parole et dit, « Voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. » Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, « Envoie-moi David, ton fils qui est avec les brebis. » Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain d'une outre de vin et d'un chevreau, il envoya ces choses à Saül par David, son fils. David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül et il fut désigné pour porter ses armes. Donc David est un artiste qui joue de l'harpe pour apaiser le roi Saül lorsque son esprit est tourmenté. David est en quelque sorte un musicothérapeute. En réalité, David se forme et apprend son futur métier de roi d'Israël. Les forces et les faiblesses du pouvoir, les intrigues autour du roi. Même si David a été choisi par Dieu pour succéder à Saül, pour mener à bien cette mission, il doit passer par une période d'apprentissage et d'acquisition d'expérience. De fait, lorsque David arrive sur le champ de bataille, il n'est pas le jeune berger innocent et naïf qui va devenir le nouveau héros d'Israël. David sait que Dieu l'a choisi à la place de Saül parce que Saül avait désobéi à Dieu, en particulier en épargnant Agag, le roi d'Amalek, dans les chapitres précédents. Pour David, ce combat contre Goliath est une vraie opportunité pour se placer en vue de la conquête du pouvoir qu'il devra exercer suite à cette onction d'huile par Samuel au nom de l'Éternel. Arrivé sur le champ de bataille, David ne reste pas en retrait. Il cherche à comprendre la situation. De toute façon, sa mission est de rapporter des nouvelles de la part de ses grands frères pour rassurer leur père Isaïe. Depuis 40 jours, le géant Goliath fait peur à toute l'armée de Saül. Le combat semble perdu d'avance, c'est même pas la peine de se battre, mieux vaut se replier et partir avec la peur au ventre. Dans l'histoire du peuple d'Israël, il y a eu beaucoup de batailles. Contre le pharaon d'Égypte, à la fin de la période d'esclavage, bataille pour la conquête du pays promis, le pays de Canaan, avec en particulier la bataille de Jéricho, et régulièrement des accrochages avec les voisins, les Philistins, les Ammonites, les Amalécites et tous les autres peuples païens. Lorsque la victoire était voulue par Dieu, le peuple d'Israël gagnait la bataille. Lorsque les chefs militaires ne s'occupaient pas de savoir si leur combat avait un intérêt pour le service de l'Éternel, le résultat était beaucoup plus aléatoire. Toujours est-il que David constate que les soldats sont paralysés par la peur et qu'aucun d'eux ne se souvient que l'Éternel a déjà permis de retourner des situations qui semblaient compromises. David fait le tour du camp et pose sa question. Chapitre 17, verset 26, on va la relire. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël ? Qui donc est ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant ? Qui donc est ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant ? Son grand frère, Eliab, lui tombe dessus. Lui aussi a peur de l'issue du combat. Et ce petit frère, malin et ambitieux, vient le narguer. Et la Bible dit que David se détourna de lui. Le grand frère perdait l'influence qu'il devait traditionnellement avoir sur son petit frère. L'ambiance dans le camp change. Les soldats parlent. On commence à se souvenir qu'effectivement l'Éternel, le Dieu vivant, peut intervenir de façon déterminante dans l'issue de la bataille. Et David, courageusement, décide d'être l'adversaire de Goliath. Chapitre 17, verset 32, « Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin, ton serviteur ira se battre avec lui. » La décision est prise et maintenant il faut mettre au point la stratégie. Saül propose un armement, des protections, le casque d'airain, la cuirasse et l'épée. Cet équipement traditionnel est complètement inadapté pour le jeune David. Il préfère une tenue légère, souple, ce qui lui donnera une grande mobilité. À la place de l'épée, il préfère son bâton de berger et sa fronde pour ne pas approcher le géant trop près. David choisit minutieusement ses pierres dans le lit du torrent. Goliath, le Philistin géant, est impressionnant, équipé, entraîné, sûr de sa force brutale en apparence. En réalité, le poids de son armure le fige. Il n'est pas mobile. Sa stratégie, c'est d'attendre que l'adversaire s'approche de lui pour le saisir et le broyer. Il paraîtrait que le gigantisme qui est à l'origine de cette grande taille est liée à une tumeur d'une glande pituitaire qui produit l'hormone de croissance, et cette tumeur, paraît-il, a de fortes chances de comprimer le nerf optique, avec pour conséquence un champ de vision restreint et une acuité visuelle un peu limitée. Et lorsque David se trouve face à Goliath, c'est David, le jeune homme à tête blonde, qui surprend son adversaire. Goliath, malgré les apparences, est en fait une personne en situation de handicap, pas mobile et malvoyant. Il perd confiance à la vue de David. « Suis-je un chien ?» dit-il. Goliath cherche à se donner du courage en maudissant David par ses dieux païens. Et nous arrivons au cœur de l'intérêt de ce récit historique. C'est la parole de Dieu qui nous parle en permanence de la relation entre le Dieu créateur et ses créatures, les hommes et les femmes. Au chapitre 17, nous relirons les versets 45 et 46. David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Je marche contre toi au nom de l'Éternel que tu as insulté. Car la victoire appartient à l'Éternel. David ne tremble pas, sa foi est fondée. Il est en paix avec Dieu à ce moment-là. Le combat s'engage, le Philistin marche, David court, la fronde tournoie, le projectile d'un diamètre de 20 mm arrive à 108 km/h à la base du casque, en plein milieu du front de Goliath. Je précise ça parce qu'il y a des gens qui ont essayé, des spécialistes de la balistique qui ont essayé de faire tourner des frondes et d'envoyer un projectile et dans des zones qui pouvaient arriver à 108 km/h en plein front. Et donc ça les assommant, voire mortel. Il y a des gens qui ont du temps à s'occuper de choses assez curieuses. Le géant vacille, il s'écroule. David finit le travail à la sauvage, de l'époque. Le Philistin est décapité. David vient de faire un pas déterminant vers la prise du pouvoir en Israël, mais il l'a fait officiellement et publiquement au nom de l'Éternel, le Dieu vivant. Et Saül, pour qui David était un simple musicothérapeute innocent, cherche en fait à savoir qui est vraiment ce jeune homme remarquable et remarqué. Je vous épargnerai les commentaires sur la suite immédiate des manœuvres militaires avec son cortège de tueries sauvages, de pillages, de souffrances et de malheurs. Le récit biblique ne donne aucune indication sur le fait que le Dieu d'Israël approuve ou désapprouve ce carnage. Par contre, pour nourrir notre réflexion de ce matin, je vous propose de nous éloigner un peu du récit du livre de Samuel. Tout au long de notre vie, nous sommes confrontés à des Goliaths qui nous font peur, que nous ne voulons pas affronter parce que la bataille est inégale. Et pourtant, si nous laissons Dieu agir et si nous livrons bataille au nom du Dieu vivant, l'issue du combat sera favorable. Dans notre vie personnelle, par rapport à notre caractère, notre personnalité, nos penchants naturels, nos dépendances, toutes ces choses peuvent être des Goliaths qui nous font peur. Essayons de prendre du recul, de la hauteur, pour les identifier et cerner leurs faiblesses, et avec l'aide de l'Éternel, les dompter et les vaincre. Dans notre vie sociale, nos relations conflictuelles au sein de notre famille, nos relations tendues au travail ou dans nos engagements associatifs sont des Goliaths. À nous de découvrir et de mettre en œuvre les stratégies qui nous permettent de surmonter ces situations qui nous font peur et nous empêchent d'avancer dans la bonne direction. Dans notre engagement collectif en tant que peuple de Dieu, nous avons à identifier tous les Goliaths qui empêchent le royaume de Dieu de se mettre en place. L'injustice, l'inégalité sociale, la pauvreté, la haine. N'oublions pas que lorsque nous prenons position, comme David, nous devons le faire au nom de l'Éternel, le Dieu vivant, qui a un projet pour l'humanité tout entière parce qu'il l'a créé. Ces Goliaths qui nous font peur ont tous des faiblesses au-delà de leur apparence, et aucun d'eux n'est invincible. Une dernière réflexion pour ce matin. D'abord, je vous demande de bien vouloir m'excuser d'avoir abordé un sujet d'actualité qui occupe la moitié des journaux télévisés de ces dernières semaines. Le conflit israélo-palestinien, il y a 3000 ans, et même depuis plus longtemps, au même endroit, à quelques kilomètres près, les mêmes protagonistes, les mêmes enjeux, comme si le plan de Dieu pour l'humanité n'était pas clair. Malgré les interventions directes de Dieu dans le cœur de certains hommes à certains moments, le monde, la guerre évolue, les relations interhumaines restent conflictuelles. Mais il y a 2000 ans, Dieu a bien envoyé son fils Jésus vivre aux côtés des hommes pour délivrer un message clair, un message de paix. Lors de sa naissance, par exemple, en Luc 2, versets 13 et 14, on peut lire et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant, c'est au moment de la naissance de Jésus, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Au début du ministère de Jésus, lors du sermon sur la montagne, nous pouvons lire en Matthieu 5, verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Un peu plus loin, toujours en Matthieu 5, au verset 43 et 44. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent, et qui vous persécutent. Et un peu plus tard, à la fin de son ministère, on peut lire dans Matthieu 26, les versets 51 et 52, au moment de l'arrestation de Jésus, au moment de livrer la bataille, Jésus dit lui-même, c'est le contexte un petit peu. Donc, et voici un de ceux qui était avec Jésus, étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Seigneur Jésus, aide-nous à surmonter nos peurs et que ta paix vienne sur la terre. Amen.